Musiquette, pas de publicité, c'est à vous Alain Poulenche pour une nouvelle émission et vous êtes en pleine forme.
Oui, ça va bien. La Tunisie, ça va
pas
donné
pas,
le golfe de
pas.
Carthage. Ça m'étonnerait que vous sachiez pas.
À demain. Pourquoi dites-vous ça?
À demain, Marie.
À demain.
Cette parole de prophète, je la revendique. Et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Je suis un marginal, anarchiste, faut pas charrier, s'il vous plaît, je crois. Marginal, mais...
Janine Marc-Pesé, Michel-Alain Barjou, Alain Poulenche, Serge Gainsbourg et Léo Ferré.
Ni Dieu.
Et l'on exige d'un mec à cheveux longs qu'il crame ou qu'il s'efface.
Je veux mourir tout seul, là-bas, au bout du quai, tiré à...
à 4 chiffres dans la nuit, camarade, avec dans mes papiers mon hibou céréla. Qui n'y voit que la nuit pour mieux m'accompagner. Alors, nous tirerons nos dernières cartouches. Ciao.
Quand je fumerai autre chose que des Celtiques, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, ni maître, ni dieu, même pas fumeur de Havane ou de Gitane. Ferré-Gainsbourg, météorite de légende, écrasé sur la planète chanson, faiseur de mélodies tristes, bousculeur de conventions et planteur de jalons dans la vie des gens que nous sommes, qui contrairement à la vie répandue trop souvent dans les sillons micro du business un peu tiède, des gens qui ne sucent pas uniquement des chansons bubblegum insipides et roses comme les bonbons.
Les chansons roses, la plupart du temps, on sait bien, c'est du caca.
Je fais une émission là. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer. Oui, ce soir. Ok.
Gardiens en chrysanthèmes. Ils ont des lits, tous alignés comme au dortoir, et soulèvent parfois de singuliers problèmes. To be or not to be, c'est à voir. Les morts ont des anges gardiens en perles fines, certises et mortuaires en couronne d'adieu. Ils sont riches, ces morts, qui s'en vont à matine. Priez pour des vivants qui n'ont plus besoin d'eux. Il est des morts qui font germer les fleurs des champs. Et ces bourgeons d'amour sentent la remembrance. Et font au cimetière un relief d'ortolan où viennent picorer les oiseaux du silence. Je sais d'étranges morts qui ne pourrissent pas et qui sont beaux comme la chair adolescente. Ce sont ceux-là dont les vivants parlent tout bas. Anges assassinés de leur jeunesse ardente.
Quand j'étais à l'école, on se levait à 5h30. Écoutez-moi bien. On se levait à 5h30. On se lavait très vite fait. On se levait, et vous savez, on vous réveillait dans une chambre froide parce qu'il n'était pas chauffé, ce qui était pas mal parce que personne ne prenait jamais froid. Et alors on entendait ça, comme ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mon Dieu, faites que je passe cette journée, etc., et que j'en fasse un bon et saint usage. Pour manger, c'était pareil. Alors on se levait, et puis on l'avait vite fait 5 minutes, on descendait en classe. En classe, il y avait une sorte d'étude. Hein. Le prof était là, il surveillait, c'est tout. À 8h15, on allait à la messe. Tous les jours. Non, 7h15, on allait à la messe, et à 8h15, on allait déjeuner. Et il y avait cette messe, c'était terrible cette messe. Et cette messe, ça, quand j'étais petit, bon, j'acceptais ça comme ça. Et puis après, j'essayais de me distraire parce que j'avais une petite voix de soprano. Et je chantais, et les jours de fête, je chantais la maîtrise. Et ça me plaisait beaucoup parce que c'est les premières harmonies que j'ai entendues au fond. Et puis, j'allais faire la communion. Ah, bon, faire la communion, vous savez ce que c'était la communion, il fallait aller se confesser, etc. Et puis, on vous avait dit, si tu bois un peu d'eau le matin, ou si il y a quelque chose, ouais, c'est fini, tu es en état de péché mortel, si tu fais la communion, si tu communies comme ça. Le péché mortel, que ça veut dire? Ça veut dire que si tu meurs, tu vas en enfer. C'était abominable, n'est-ce pas, de dire ça à des jeunes enfants susceptibles de le croire. Moi, je n'ai jamais tellement cru, ça, c'était devenu une sorte d'habitude, de choses obligées, mais ça, il m'arrivait de faire la communion. Bon, après, je faisais exprès de boire de l'eau pour être en état de sacrilège, n'est-ce pas? Je ne le disais à personne, bien entendu. Mais ça me réjouissait de savoir que j'étais en état de sacrilège et que j'allais faire la communion. Bon, tout ça, les années ont passé. Autre jour, j'étais au mariage de ma nièce dans l'Allier. On est allé à la messe. C'était là. On avait fait un plan du repas à midi, avant le mariage, le vrai repas qu'on faisait le soir même, n'est-ce pas? Et alors à midi, on avait bien mangé, et puis j'étais là comme ça, et puis je regardais, tout d'un coup, je vois mon beau-frère, le frère de mon beau-frère qui est un grand chirurgien à Amiens, mes neveux, formidable, tout ça, et puis ils vont, je les vois, ils vont avec les mains, et puis le prêtre met le truc dans les mains, comme ça. Avant, on ne touchait pas ça, le corps du Christ.
Il venait directement sur les lèvres.
Et puis, il mange ça, n'est-ce pas? Et puis, en sortant, ils me disent maintenant, on ne se confesse plus. C'est extraordinaire. Alors je me dis, comment ça se fait ça? Moi, on m'avait dit, si j'étais mort, j'aurais été en enfer. Je veux dire, j'aurais pu croire. Moi, j'étais damné à jamais parce que j'avais touché un peu l'hostie de ce monsieur qui vous fourre ça dans le cornet, malgré vous, n'est-ce pas? À partir du moment où vous avez accepté de vous agenouiller sous l'œil de principe de l'autre qui regardait les types qui partaient des travées. Et si, il y en a un qui restait. Ah, celui-là, il ne faisait pas la communion. Oh là là, celui-là, c'était tout de suite un terroriste ou un gauchiste, n'est-ce pas? On ne disait pas ça à cette époque. Mais
un paria fond.
C'est ça, oui, un hérétique, n'est-ce pas? Et je me suis dit, et voilà, et maintenant, tout ça, parce qu'il y a eu un décret du pape ou d'un évêque, tout ça s'est changé. C'est un peu comme l'histoire, comme on me dit. Je n'ai pas encore vu ça, moi, mais je suis bête parce que j'ose pas le croire. Et je demande des détails à propos des films érotiques qu'on voit maintenant sur les Champs-Élysées. Il paraît qu'on voit des choses extraordinaires, quoi. Bon, hein. Eh bien, il y a 10 ans, il y a 5 ans, 6 ans, des gens, moi j'ai connu des gens très gentils qui faisaient une espèce de petit trafic de photos comme ça, érotiques. Je dis érotiques à dessert, je n'aime pas employer l'autre mot. Hein, et ils sont allés en prison. Et qu'est-ce qu'ils ont le droit de croire, ces gens-là, aujourd'hui? Ils sont un peu comme moi. Moi, qui buvais avant d'aller communier, je me mettais donc en état définitif de péché. Donc, si je mourais, c'était foutu pour moi, je brûlais éternellement, d'après leur principe et leur définition de la mort, n'est-ce pas? Et ce type qui est allé en prison pour avoir vendu des photos porno, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il pense, ce type? Il a le droit de rentrer chez lui et dire, tout de même, c'est mal foutu la société, non? Et le pouvoir, c'est vraiment extrêmement dégueulasse, parce que du jour au lendemain, on peut changer des tas de choses. Vous savez, j'ai trouvé une chose, le pouvoir, le zéro. Moi, je considère que je suis au point zéro. Au-dessus, il y a le pouvoir positif, c'est-à-dire l'État, les flics, le machin, les impôts, tout ce qu'on vous oblige à faire. Et puis, en dessous, il y a le pouvoir négatif. L'autre, le type qui vous assassine tranquillement, n'est-ce pas? Le type qui vous bouscule, le type qui vous tue, qui vous prend votre fric.
Le pouvoir de la violence.
Le pouvoir de la violence. Eh bien, il faut combattre l'un et l'autre, c'est ça, n'est-ce pas? Il faut bien se dire une chose, que nous vivons un peu sur le fil. Si vous marchez bien sur le fil, ça va. Si vous ne marchez pas bien, vous êtes foutus.
Le génie, c'est des marteaux et parfois ça rend en marteau. Ça, c'est sur l'album Love on the Beat, l'album 84, chanteur travesti offert sur pochette scandaleuse. Mais l'enfance de Serge Gainsbourg fut, elle, studieuse et artistique. Un papa musicien qui, par dépit personnel, l'orienta très tôt vers la peinture.
Mon père a fait de la peinture étant jeune, pour une histoire rocambolesque. Il avait pris le Transsibérien, il avait une toile qu'il adorait entre ses jambes. Il s'est endormi, assoupi. On lui a volé cette toile avec son âme slave, son romantisme russe. Et a juré qu'il ne touchait plus pinceau. Et donc, il avait espéré que son fils reprendrait le flambeau, si je puis dire. Et à l'âge de 13 ans, il m'a emmené dans les académies de peinture. Il n'a pas réalisé que pour ça, il fallait... Il y avait la vache enragée qui m'attendrait 15 ans plus tard. Il faudrait vivre. Lui n'étant pas qualifié pour en faire du mécénat, puisqu'il était pianiste dans les boîtes de nuit, dans les bars. Quand je m'arriva d'être parfaitement intoxiqué par la peinture, qui est un art, un des beaux-arts, enfin un art où il faut se... un art... exact, il ne subit pas les modes de l'instant. Il s'est trouvé que, bon, il m'a supporté jusqu'à la période militaire, c'est-à-dire 20 ans, 21 ans. Et quand je suis sorti de l'armée, j'ai été travailler chez André Lotte, chez Fernand Léger, mais j'étais absolument intoxiqué par ce que je faisais. Il n'était pas question de quitter Chevalet pour aller gagner ma vie. Alors là, j'ai eu des problèmes. Les problèmes sont résolus partiellement en jouant de la guitare dans des boîtes de nuit, puis en faisant du piano au bar moi-même. Mon père étant pianiste, il m'a appris rudiments de piano classique. Mais par ces métiers nocturnes, je perdais la lumière de l'aube qui est primordiale au peintre. Et petit à petit, je me suis perdu. Je trouvais que la vache enragée et la misère au nom des beaux-arts, c'était anachronique. Je veux dire par là que la peinture de bonne qualité, un rouge vermillon pigmenté d'une façon à ce que la peinture tienne le coup pendant quelques années sans craquer, coûte très cher. Donc chaque tube vaut tant. Un pinceau de soie cher et une toile de bonne qualité, bien enduite, vaut très cher aussi. Donc, pas question d'aller vendre ces toiles contre un steak ou un pain fantaisie comme le faisaient les impressionnistes du temps du bateau lavoir. Il fallait donc un métier. Mais enfin, j'évoluais. J'avais donc mon évolution normale de jeune peintre, et au moment de trouver la solution, ou c'est-à-dire ma personnalité, j'ai abandonné. Peut-être que j'aspirais à avoir du génie et je n'avais que du talent, je ne sais pas. Je voulais peindre comme un gars de la Renaissance, avec un luxe autour de moi, des modèles, non pas ces boudins qu'on trouve dans les académies actuellement, ou ces vieilles choses démolies. Je voulais des modèles ravissants, et ça, c'était au-dessus de mes moyens.
Ils sont d'une autre race et ne le savent pas. Ils sont d'un autre clan et se mêlent à vous. Les artistes, ils vous tendent leurs mains et vous donnent le bras. Vous les laissez passer, ils ne sont pas à vous. Les artistes. Ils sont le clair matin dans vos nuits des tempêtes. Ils sont le soleil noir de vos étés d'hiver. Ils chantent dans la nuit à vos tempes muettes. Ils plantent la folie au fond de vos galères. Les artistes. Le chagrin dans les coquelicots, ils écrivent l'amour dans vos chambres glacées. Les artistes, ils font plier le temps sous l'aile d'un oiseau. Font passer la vie dans vos accords brisés. Les artistes, ils font la loi demain quand tu vivrais hier. Ils décident de tout quand tu crois les soumettre. Il y a 20 000 ans qu'ils sont à la fenêtre. Il y a 20 000 ans qu'ils crient dans le désert. Il y a 20 000 ans qu'ils sont dans la fenêtre. Il y a 20 000 ans qu'ils crient dans le désert. Les artistes.
Ferré, bien sûr, les artistes, évidemment, enregistrés en mai 1988 au TLP de Jazé. La radio n'a pas toujours diffusé au mieux Léo Ferré, et pourtant, 1951, elle lui offrit un moment unique, une sorte d'oratorio avec orchestre, récitant, chœurs, chanteurs et cantatrices, une pièce rarissime, jamais rediffusée depuis sa création, il y a donc 24 ans, une rareté comme nous les aimons beaucoup ici, une rareté dénichée, bien sûr, dans les trésors de l'INA.
Thank you. La radiodiffusion française présente Jean Gabin dans un récit radiophonique de Madeleine Rabeau et de Léo Ferré, de sac et de corde, pour récitant, voix, chœur et orchestre, avec Leïla Ben Sedira de l'Opéra Comique, Marek Sliven de l'Opéra Comique, Claire Leclerc, Suzanne Girard, Léo Noël et les frères Jacques. Chœur Raymond Saint-Paul, direction Eugène Bousquet. Musique originale de Léo Ferré. Orchestre de la radiodiffusion française et chœur, sous la direction de l'auteur. Réalisation Yves Darrier.
C'était un assassin qui travaillait avec la lame. Et chaque soir, après le turbin, il faisait travailler sa femme. Mon père avait un bar tabac, fréquenté par de drôles de têtes. Ils vivaient tous dans l'aléa et papa plaçait leur galette. J'étais alors très jeune. J'ai senti que leur bas de laine filait le mauvais coton. J'ai rompu avec ma famille. Et je suis parti un soir, comme ça, à la rue. Ah, la rue, c'était plus beau que la Technicolor. Le peuple s'étalait aux étals des boutiques. Les couleurs du vert tendre au rouge thermidor faisaient la chaîne et se racontaient en musique. C'était, je me souviens, un 14 juillet. 114 juillet en un siècle. C'est peu. La rouge liberté se promenait à peine en dimanche et je l'ai vu qui léchait le regard de la foule. Je me suis retrouvé à l'heure où les chats font la noce, enchaîné à ma soif, à ma faim et à ma solitude. Puis tout à coup, je l'ai rencontré. Il était noir comme un dimanche au quartier latin. Frais débarqué de Tombouctou avec des piastres plein les fouilles, ayant fréquenté des frépouilles, il se retrouva sans un sou. Que vouliez-vous qu'il fît contre ça? Eh ben, mais... qu'il cira. Il devint mon ami par le sortilège d'une chanson terrible. En effet, tandis qu'il frottait allègrement les beaux souliers des beaux seigneurs, ils rabotaient leur cœur avec cet air que je n'ai jamais oublié. Quittait le jour où, s'étant mis à son compte, il cessa de chanter. C'est alors que je m'épris d'une jeune bohémienne et je partis avec elle pour connaître les abris ramassés, les beaux des boiteux, les poules voraces, les gens étranges et la bonne aventure. Brusquement, cette charmante enfance donna pour un clown qui la faisait pleurer. Et rivé à leur destin, je les suivis dans ce monde qu'on appelle les gens du voyage. Je connus la monotonie du geste nomade, le métier de partir, les roulottes confortables, et j'en vins à haïr ce monde inventé par la détresse, l'ennui, l'atroce loisir. Et toujours ce clown, cet affreux clown aux yeux peints, à la bouche déformée par l'habitude mécanique du rire salarié, car enfin quoi, il pensait à la caisse, le gredin. Ces bourgeois de l'attente me donnèrent la nausée des routes, des places publiques, des fêtes foraines.
J'espère que vous avez fait tourner vos cassettes. Ça s'appelle De sac et de cordes. C'est notre feuilleton musical estival de cette année. La suite, bien sûr, demain, même heure, même antenne, sur France Inter. Et si la cassette tourne, un conseil, laissez-la tourner. Ah, si vous connaissiez ma poule, en octobre 1967, c'est un des inédits publiés dans les 4 cassettes vidéo Polygramme, l'intégralité des apparitions en télé de Serge Gainsbourg. Mais à la radio, le 4 octobre 1970, Émile Noël recevait Gainsbourg dans l'émission Profil, autoportrait du cynique seigneur trop lucide, pour être malhonnête.
Les premiers livres qui m'ont vraiment impressionné dans ma vie étaient, comme par hasard, étaient tous des contes. C'était des auteurs de contes. C'était Grimm, c'était Perrault, Dersen, bon, voilà. Tous les émerveillements dans ma vie ont été sur les contes. Alors, c'est pour tenter à prouver que j'aime m'évader de ces réalités.
Quand vous créez pour vous ou pour les autres?
Dans le noir d'une salle, avec les projecteurs dans la gueule, vous entendez un brouhaha, vous dites c'est le public. Et mais si vous étudiez ce public, le public d'une salle, fauteuil par fauteuil, c'est ahurissant le mélange. Alors comment pouvez-vous vous imaginer qu'un quinquagénaire à côté d'une fillette de 12 ans ou de 18 ans puisse former un public homogène? Comment pouvez-vous imaginer, comment puis-je imaginer moi que j'écris pour une jeune fille qui va faire la moisson, ou une autre qui ferme une boîte de petits pois à l'usine, en même temps une fille du 16e. Bon, nous avons actuellement un mode d'expression qui est absolument monstrueux, avec des ramifications de cancer. Je sais je sais comment ça va déplaire. Je sais jamais comment ça va plaire. J'ai une certaine technique, j'ai acquise. J'ai un job, je vis comme ça, mais je vois pas pourquoi aller analyser ce que pense un marchand de godasses. Qu'est-ce que ça va lui faire dire, ce gars-là? Il a des chaussures importées d'Italie, puis il en a d'autres qui sont faites ici, puis il en a pour les petites dames et pour les...
Et la rêverie, c'est à part, alors?
Ah ben oui, c'est à part. Il vous dira, moi, je vends tant de paires de godasses par an, et ça marche bien parce que j'ai... Parce que si, parce que cela, mais vous n'allez pas lui dire, ça vous plaît, les godasses? Moi, je vends des godasses. Des jolies godasses. Je vends pas des sabots. Mais je vends des belles godasses. Et si j'étais foutu, ben, ce serait... Ça continuerait avec France Gall, ça continuerait avec... les autres, je les ai oubliés. Donc, j'ai sûrement quelque chose à faire. Je suis peut-être pas foutu. Il est vrai que, pardon, je suis dans cette maison qui n'a rien à parler, qui est belle, quelques objets dispendieux, bien sûr. J'ai travaillé pour ça. Mais j'ai pas une cour devant moi, j'ai pas de flagorneur, j'ai pas de bagnole avec chauffeur, encore que ça va pas. Ça va pas être long. j'ai pas de maison secondaire, j'ai un compte en banque. Quand on fait la noce, ça va vite. Je suis pas foutu. Je suis pas pris dans un engrenage. J'ai pas d'amis, comme j'en avais pas avant de faire ce métier. Dans l'anonymat, j'étais seul avec une femme, et je le suis actuellement. Et j'ai toujours une amertume latente qui est ma personnalité. Une des facettes de ma personnalité. En fait, j'ai pas changé.
Ah.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Serge Gainsbourg, seigneurs et seigneurs. Léo Ferré, Serge Gainsbourg, nous les retrouvons demain sur France Inter. Merci à Olivier Dupré, Laurent Vitré pour la technique, Corinne Valente, Philippe Debrenne. Merci à Lina, bien sûr, pour tous les documents d'archives. Janine Marc-Pezet, Michel Alain Barjou, Alain Poulange. Nous vous souhaitons ni Dieu ni maître et nous vous disons à demain.